Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur l'évangile de Jean, de Matthieu. Ça commence mal. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 3. On a déjà vu quelques extraits des premiers chapitres au moment de Noël. Je voudrais aussi vous souhaiter une très bonne année 2026. On sait que en disant cela, qu'on n'échappera pas aux difficultés de la vie pendant cette année. Ce que nous souhaitons en réalité, quand on dit bonne année en tant que chrétien, c'est que nous vivions dans la communion avec Dieu et que nous vivions sous son autorité, sous son règne. Ça, c'est une bonne année. Et l'une des caractéristiques principales du règne de Christ, c'est sa justice, c'est sa sainteté, c'est la vérité. Or, nous sommes injustes, nous sommes pécheurs et fourbes, et c'est pour cela que préparer le chemin de Christ, c'est se repentir, reconnaître notre besoin de pardon, reconnaître que préparer le chemin de Christ, c'est se repentir, c'est véritablement rechercher une transformation de notre cœur, un changement d'attitude à l'égard du péché. Et si vous avez les deux premiers chapitres de Matthieu en tête, vous vous souvenez que Matthieu montre l'accomplissement des promesses messianiques et l'entrée du roi Jésus dans ce monde. Matthieu nous donne sa généalogie. Il est le fils de David, Jésus, fils de David. Il est le roi des Juifs. Il est né à Bethléem, selon la prophétie du prophète Michée. Et il est adoré par des mages venus d'Orient. Ils ont vu son étoile briller dans le ciel en Orient. Et Matthieu, chapitre 3, nous appelle chacun de nous, chaque cœur, à la repentance pour préparer à accueillir ce roi. Une bonne année, c'est une année où on se repent sincèrement, où on se repent constamment et rapidement. Et je voudrais vous faire la lecture de ce premier passage en Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous !» car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je voudrais ce matin qu'on regarde l'appel à la repentance. On verra ça dans les premiers versets. Et puis on verra la fausse repentance et enfin la vraie repentance. Facile. L'appel à la repentance. L'appel de Jean-Baptiste à la repentance est motivé par la manifestation imminente du royaume des cieux, hein, verset 2. Le royaume des cieux, c'est l'expression de Matthieu pour parler du royaume de Dieu. Il désigne avant tout le règne du souverain de Dieu, l'exercice de son autorité juste et sainte sur son peuple et sur tout le monde. On peut dire que le royaume de Dieu a été contesté dès la rébellion en Éden. Non pas parce que Dieu aurait perdu sa souveraineté, il est éternellement souverain, mais parce que l'être humain a refusé son règne sur sa propre vie, sur son propre cœur. En donnant son commandement « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », Dieu se révèle à l'homme comme le roi, définissant ainsi ce qui est bon, ce qui est juste. Mais en Genèse 3, le serpent remet en cause la parole et son autorité, et l'homme choisit de décider par lui-même du bien et du mal. Et cette désobéissance, elle constitue une véritable rébellion contre le règne de Dieu, une rupture volontaire avec son autorité tellement bienveillante. Alors le diable s'est immiscé comme prince de ce monde, étendant sa domination sur les âmes, sur les corps, sur les royaumes de ce monde. En lisant les évangiles, nous constatons un paradoxe. D'un côté, la venue de Jésus marque un tournant décisif en lien avec le royaume. Comme ici, hein, le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire qu'il est présent, en tout cas il est imminent. Une réalité imminente. Mais d'un autre côté, à d'autres reprises, le royaume de Dieu est décrit comme une réalité future qui va se manifester et dans un royaume prochain, dans un monde prochain. Par exemple, en Matthieu 6, et c'est le titre que l'on a donné à cette série, il nous enseigne à prier « Que ton règne vienne ». Et puis, en Matthieu 26, verset 29, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Alors, est-ce que ce royaume est une réalité présente, imminente, ou est-ce que c'est une réalité future ? Eh bien, c'est les deux. Il y a comme l'inauguration qui est faite du royaume lors de la première venue de Jésus. Jésus, en venant dans le monde, chasse les démons, il guérit les corps, il ressuscite les morts, il pardonne les péchés, il se révèle le roi d'un royaume plus vaste et plus glorieux que tous les royaumes de la terre. Et tous ceux qui croient en lui naissent de nouveau et entrent dans son royaume et vivent désormais selon les principes de son royaume. On étudiera ces principes dans les chapitres 5 à 7. Et puis, il y a la consommation totale du royaume lors de son avènement à la fin des temps. Le diable sera alors définitivement mis hors d'état de nuire. Ésaïe, chapitre 11, versets 9 et 10, dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Ah, voilà le royaume établi. Imagine que tu achètes une maison devant un notaire. Sur le papier, la maison t'es attribué, le contrat est signé, le notaire a validé l'accord, tu es officiellement propriétaire. Cela représente le déjà du royaume, le déjà biblique. Tu es déjà sauvé, tu fais déjà partie du royaume de Dieu et tu possèdes déjà les promesses spirituelles de Dieu comme un héritage certain. Cependant, même si la maison est désormais à toi, tu n'as peut-être pas encore emménagé. Les clés te sont remises, mais la maison est encore vide. Il faut peut-être des rénovations, des préparations avant de pouvoir y habiter pleinement. Il se peut même que certains obstacles se dressent, comme des problèmes administratifs, des démarches à faire avant d'y vivre confortablement. Ça représente le pas encore biblique. Bien que tu sois déjà dans le royaume de Dieu, tu n'as pas encore expérimenté pleinement tout ce que cela signifie. Il y a encore des luttes à traverser, des défis à surmonter, avant de vivre dans la plénitude de ce que Dieu a promis, comme la restauration complète, la joie parfaite et l'absence de souffrance. Le péché, il est fondamentalement un refus du règne du divin. L'entrée dans le royaume ne peut pas se faire sans repentance, c'est-à-dire sans un changement profond de nos pensées et puis de direction. Ainsi, lorsque Jean proclame « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il annonce le moment tant attendu. Ça y est, il est arrivé, le Messie est là. Dieu s'apprête à intervenir, à régner d'une manière nouvelle par la venue du Messie. Son appel à la repentance est donc urgent, il est essentiel, car seul un cœur transformé et soumis à Dieu peut accueillir le roi qui s'approche. C'est le sens du baptême de Jean. J'ai besoin d'être purifié pour accueillir le Messie. En ce qui est merveilleux dans les Écritures et dans l'Évangile, c'est que Dieu promet d'accueillir maintenant les pécheurs qui viennent à lui le cœur brisé. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Il dit, quels que soient vos péchés, une miséricorde sans limite s'offre à tous ceux qui se tournent vers Dieu à travers les mérites de Jésus-Christ crucifié. Puisque l'offrande de Jésus-Christ satisfait la justice et la sainteté de Dieu, le Père alors a, entre guillemets, l'obligation d'ouvrir ses bras et d'embrasser tout fils prodigue qui revient à lui de tout son cœur. Vous vous souvenez de ce fils prodigue ? Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous vous souvenez comment Jésus a illustré l'amour du Père dans cette histoire du fils prodigue, cette parabole du fils prodigue. Le fils qui a offensé le Père. Le fils qui s'est tellement opposé au Père. Luc 15 dit que le Père se leva et alla vers son fils. Et comme il était encore loin, son Père le vit. Pardon, je reprends cela, j'ai raté mon verset. Le fils dit, il se leva et il alla vers son Père. Et comme le Père le vit, alors qu'il était encore loin, il fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou. Et il l'embrassa. Vous voyez, la démarche est incroyable. Le fils réalise son besoin de pardon. Il vient tremblant devant son père. Mais le père, lui, il court vers le fils. Et il le protège. Et il l'embrasse. Et il le restaure tellement dans une parfaite communion. Il lui ouvre ses bras sans réserve. Il le restaure dans sa qualité de fils. Il donne un festin. Dieu ne se contente pas d'attendre que le pécheur arrive à la porte de son cœur. Il vient lui-même vers lui avec compassion et avec empressement. Au verset 3, il est dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers », cette prophétie d'Ésaïe. À l'époque biblique, lorsqu'un roi ou un personnage important devait visiter une région, on envoyait des messagers en avant pour préparer les routes, enlever les obstacles, combler les trous, aplanir les chemins difficiles. Préparer le chemin signifiait donc rendre la route praticable et digne de la venue du roi. Jean n'appelle pas à des travaux publics, mais à une préparation intérieure de nos cœurs. Le chemin à préparer n'est pas géographique, mais c'est notre disposition de cœur. Aplanir les sentiers, c'est enlever tout ce qui empêche Dieu de régner. L'orgueil, l'hypocrisie religieuse, l'autosuffisance spirituelle, le péché non confessé, l'endurcissement de nos cœurs. La repentance, c'est le moyen par lequel le cœur devient accessible à l'action de Dieu. Là où le cœur est tordu, divisé ou endurci, le chemin n'est pas droit. Alors, sommes-nous en train d'aplanir notre cœur ou d'ériger des obstacles ? Regardons la fausse repentance. Quand on comprend comme Dieu est disposé et attend notre retour pour restaurer totalement notre relation avec lui et restaurer toute notre qualité de fils immédiatement, sans payer et avec joie. Prétendre ne pas avoir besoin de revenir, c'est la dernière offense qu'on puisse lui faire. Une offense fatale. Et cette fausse repentance peut prendre diverses formes. Elle pourrait être, par exemple, des résolutions du nouvel an. On considère souvent la repentance comme un appel à nettoyer notre vie. Et peut-être que en ce début d'année, vous avez dit « Oh, je ne me mettrai plus soudainement en colère contre mes enfants. » Ou « Je ne regarderai plus jamais d'images mauvaises, pornographiques. » « Je ne tricherai plus sur mes heures de travail. » Promis. « Je ne parlerai plus dans le dos de mes collègues. » Mais nous voyons bien ici, ce qui est réformé, c'est notre conduite, mais pas le cœur. On peut même tenir, ou si on pouvait tenir, à nos bonnes résolutions, sans venir à Dieu, sans se soumettre à Christ. Vous voyez, c'est exactement ce que font les pharisiens. C'était des religieux qui avaient une conduite tout à fait respectable. C'est le genre de personnes qu'on aimerait avoir comme voisins. Ils font pas de fêtes bruyantes. Ils ne prennent pas votre place de parking. Ils sont plutôt disposés à vous aider, hormis le jour du sabbat. Ils sont plutôt respectueux des usages. Mais Jésus les traite de sépulcres blanchis. C'est-à-dire ils sont propres au dehors, mais remplis d'impureté à l'intérieur. Il les appelle, comme Jean-Baptiste ici, une race de vipères. Il ne s'agit pas d'une insulte gratuite, mais d'un langage prophétique pour dénoncer une attitude spirituelle perverse. La vipère symbolise le poison caché et la tromperie, tandis que le terme « race » souligne une filiation spirituelle, c'est-à-dire que ces hommes reproduisent l'esprit du serpent, l'hypocrisie, l'endurcissement et l'opposition au règne de Dieu. Les pharisiens, en se contentant d'une religiosité extérieure, sans repentance, deviennent ainsi un danger pour eux-mêmes et pour les autres, empêchant l'accès au royaume. Ils aimaient la réputation de connaître Dieu plus qu'ils n'aimaient Dieu lui-même. Jean-Baptiste perçoit qu'ils ne viennent pas pour confesser leurs péchés, contrairement aux foules précédentes. Et il dit « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Les pharisiens y croyaient être spirituellement en sécurité simplement parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham. Jean dénonce cette fausse assurance religieuse parce que c'est incompatible avec la repentance. Dieu peut susciter, par ses pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Autrement dit, l'élection historique d'Israël ne dispense personne de la repentance personnelle. La relation avec Dieu ne se transmet pas par le sang ou par je ne sais quel héritage. Non, elle se manifeste par un cœur transformé. Et cette fausse assurance, elle est fondamentalement incompatible avec la repentance, parce que la repentance commence précisément où toute prétention tombe. Se repentir, c'est reconnaître que l'on n'a aucun droit, aucun mérite, aucune protection religieuse, spirituelle à faire valoir devant Dieu. En s'accrochant à Abraham comme garantie spirituelle, les pharisiens, ils évitaient de faire face à leurs propres péchés et à se repentir. Ce reproche de Jean, il reste d'une actualité frappante. Il avertit contre toute forme de christianisme hérité, culturel ou institutionnel. Vous avez déjà entendu des gens dire « Ah mais moi, dans ma famille, il y a un pasteur. » Comme si, parce qu'il y a un ancêtre pasteur, que ça devrait me protéger. C'est une fausse assurance. Ça remplace la repentance vivante par une identité religieuse confortable. Être né dans un milieu croyant, connaître les bonnes doctrines ou fréquenter la bonne structure ne remplace jamais un cœur brisé devant Dieu. On confond aussi parfois repentance et pénitence. La pénitence, quand on la comprend comme un ensemble d'actes extérieurs, des efforts personnels, des réparations ou alors des dons que l'on fait pour soulager ou des pratiques religieuses pour soulager notre conscience, ça demeure centré sur l'homme. On peut rester centré sur nous-mêmes, sur notre culpabilité, sur notre besoin de se soulager la conscience, de compenser, si on peut dire, nos fautes par nous-mêmes. Et dans ce cas, il n'y a pas besoin même de revenir à Dieu. Mais seulement, c'est juste une tentative de l'homme de gérer le péché avec ses propres forces, avec ses propres moyens. C'est absurde. La repentance, au contraire, elle est fondamentalement relationnelle. Elle suppose que l'on reconnaisse son péché devant Dieu, que l'on admette son tort, non seulement moralement, mais spirituellement. Et que l'on se tourne vers lui dans la foi et dans la soumission. Quand le fils prodigue revient vers son père, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi seul, contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Se repentir, ce n'est pas d'abord faire quelque chose, mais c'est revenir à quelqu'un. C'est revenir à Dieu. C'est accepter à nouveau le règne de Dieu là où il avait été refusé. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu rejette souvent les pratiques religieuses ou pénitentielles qui ne sont pas accompagnées d'un cœur qui est tourné vers Dieu. Le premier chapitre d'Ésaïe dénonce cela avec force. Osée également, il dit « J'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Sans repentance, la pénitence reste horizontale, humaine. Avec la repentance, la vie est réorientée verticalement vers Dieu. On pourrait aussi se tromper dans une fausse repentance, en pensant qu'une vague confession, ce serait de la repentance. C'est-à-dire une confession très générale. Vous savez, « Oh oui, c'est vrai, on est tous des pécheurs. » Quand on a dit ça, on n'a rien dit. La confession vague n'attaque pas les péchés en particulier. La confession vague ne nomme pas le péché, mais elle ne produit pas non plus de changement fondamental dans nos vies, de transformation profonde. Ces généralités ne mettent rien à mort. Elles endorment au contraire notre conscience. Confesser, c'est amener le péché à la lumière. Et ce qui est exposé peut être alors guéri. Ce qui reste caché garde du pouvoir. Le proverbe 28:13, vous connaissez certainement, il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. » Venir à la lumière, c'est dire « Voilà, voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Change mon cœur. Produis dans mon cœur une transformation profonde. La confession protège d'une foi superficielle. Sans confession régulière, la foi devient théorique. La repentance devient un concept un peu vague. La grâce, elle est présumée plutôt que reçue véritablement. Nommons le péché pour ce qu'il est. L'orgueil, la cupidité, l'avarice, ou la débauche, la jalousie, l'envie, l'intempérance, c'est-à-dire tous les abus, tous les excès, la colère, la paresse. Vous savez, les bonnes résolutions, la confession vague, la pénitence, tout cela, ça n'est pas de la repentance. Et ne pas se repentir a des conséquences graves. Car cela signifie on refuse le royaume, le règne de Dieu, au moment où il s'approche. Jean-Baptiste explique que celui qui ne se repent pas reste sous le jugement de Dieu. Il demeure dans le péché, il s'oppose au roi qui vient. C'est pourquoi Jean-Baptiste parle d'une colère à venir, chapitre 3, verset 7. Il utilise des images fortes comme l'arbre coupé, hein, la cognée est déjà à la racine. Ou le feu. Ces images montrent que l'absence de repentance conduit à l'exclusion du royaume et au jugement. Non par manque de religion, mais par l'endurcissement de cœur. Ainsi, dans ce contexte, ne pas se repentir, c'est refuser d'entrer dans le royaume de Dieu et c'est s'exposer au jugement plutôt qu'au salut. Regardons ce que c'est que la véritable repentance. Dans les versets 11 et 12, je relis « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » La véritable repentance provient d'une juste compréhension de qui est Jésus. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est notre Créateur, qui connaît tout de nos vies. Jean-Baptiste a un côté radical. Il est impressionnant. Son vêtement rappelle le prophète Élie, celui qui a fait descendre le feu du ciel, qui a défié et renversé la domination des prophètes de Baal et d'Astarté. Et Jean-Baptiste lui ressemble. Il est celui qui défie le roi en place, Hérode, dans sa relation adultère avec Hérodias. Il est radical. Il est visiblement écouté par toute la population de tous les coins de Jérusalem, de la Judée, du Jourdain. Les gens venaient pour être baptisés par lui. Mais il reconnaît qu'il n'est rien en comparaison de celui qui vient. Il n'est même pas digne de porter ses souliers. Vous savez, dans une maison, le serviteur le plus modeste était chargé d'enlever les souliers des visiteurs et de leur laver les pieds. Jean-Baptiste n'est même pas digne de porter les sandales de celui qui l'annonce. La vraie repentance provient d'une juste compréhension de qui est Jésus, de qui est Dieu. Vous vous souvenez en Ésaïe 6, quand Ésaïe le prophète a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, quand il a entendu les séraphins qui s'écriaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le prophète, lui, Ésaïe, le prophète de race royale, appelé par Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il s'écrie « Malheur à moi! Je suis perdu, car mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Si nous avons du mal à nous repentir, c'est probablement que la vision que nous avons de Dieu est faible. La vision que nous avons de sa gloire et de sa sainteté est encore floue à nos yeux. C'est lorsque notre vision est éclairée qu'on se repent. Après avoir souffert et contesté avec Dieu, Job reconnaît la grandeur divine et il se repent humblement en voyant la sagesse et la puissance de Dieu dans la création et dans toutes ses œuvres. Relisez les chapitres 38 à 42 de Job, vous allez voir. C'est la vision de Dieu, d'un Dieu immense, d'un Dieu parfaitement sage, d'un Dieu tout-puissant qui maîtrise toutes choses, même le mal, qui a touché le cœur de Job. Et il s'est repenti, sans même comprendre, sans même avoir les réponses à ses questions. Le peuple d'Israël se repent lors de la prédication de Pierre à Pentecôte, lorsqu'ils réalisent que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus qu'ils ont crucifié. Imaginez-les ! Ils avaient crié « Crucifie-le !» Et maintenant, ils réalisent qui il est. Le roi ressuscité d'entre les morts. Le Dieu tout-puissant, parfaitement sage. Le Dieu qui s'abaisse pour sauver son peuple. Et ils l'ont crucifié. Saul de Tarse se repent lorsqu'il réalise qu'en persécutant les chrétiens, il s'est attaqué à Christ lui-même. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Il persécutait le Dieu qu'il prétendait servir. Chaque repentance dans la Bible est liée à la révélation de la majesté de Dieu. C'est elle qui conduit à humilier nos cœurs, qui nous pousse à un changement, à une repentance sincère, profonde, authentique, constante. Dans la présence du Seigneur suprême, la défense de soi est insensée. Il sait tout. Il a tout vu. Il est juste, plein de bonté, infiniment sage. La seule réponse adéquate, c'est la repentance. Au verset 11, il dit, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste baptise avec de l'eau. Ça, c'est le signe extérieur. Mais Jésus baptise du Saint-Esprit pour une transformation intérieure profonde, pour une purification véritable. Et verset 12, il dit, il a son van à la main. Le van, c'est l'instrument du tri. Une fois le blé récolté, il est battu pour séparer le grain de la balle de son enveloppe, puis on jette l'ensemble en l'air, le vent emporte la balle et la paille, mais le grain retombe à terre. Il est ensuite amassé dans les greniers. Le reste, sans valeur, est brûlé. Jésus vient pour faire le tri, non pas entre les pécheurs et les justes, mais entre les pécheurs qui se repentent et ceux qui s'endurcissent. Si nous avons compris ces vérités, alors nous verrons aussi que la repentance, c'est une nécessité constante par laquelle nous montrons notre totale dépendance à Dieu et à sa grâce. La conversion initiale, c'est un point de départ d'une vie de repentance. Mais la vie chrétienne est un chemin où l'on se détourne régulièrement du péché et on retourne vers Dieu. Martin Luther, l'acteur majeur de la Réforme, avec ses 95 thèses, a commencé ces 95 thèses avec cela. La première de ces thèses dit « Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ dit « Repentez-vous », c'est ce qu'il dit au chapitre 4 de Matthieu, verset 17, il voulut que toute la vie des croyants soit une vie de repentance. Ça signifie que le chrétien vit toute sa vie dans un processus de retour à Dieu, humble, transformé par sa grâce. Il y a une certaine douleur, c'est vrai, dans la repentance, dans cette véritable repentance. Et Paul le reconnaît, il dit que il y a une tristesse selon Dieu. Que la véritable repentance produit une tristesse selon Dieu dont on ne se repent jamais. Jacques, dans son épître, invite ses lecteurs avec ces mots: sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. C'est-à-dire mesurez votre besoin de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu prend plaisir dans les larmes des pécheurs repentants. Psaume 34, 19 dit: l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 51, 19, qu'on a lu tout à l'heure: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Est-ce que nous avons un domaine où Dieu nous appelle à un changement concret dans nos relations, dans nos paroles, dans nos pensées? Confesser un péché à Dieu, c'est ce qui va l'honorer en réalité. C'est ce qui va préparer nos cœurs à tout le changement et à la beauté de recevoir la grâce. Confessez vos péchés à Dieu. Si nécessaire, à un frère ou une sœur de confiance. En préparant ce message, j'ai pensé mes vœux pour notre Église, pour cette année 2026 et pour les suivantes. Ce serait que notre Église que nous soyons, chacun d'entre nous, prompt à nous repentir. La promptitude à se repentir, c'est le signe d'une maturité chrétienne, d'une compréhension de qui est Dieu et combien sa grâce est suffisante. Elle reflète un cœur humble, un cœur qui désire être devant Dieu. Et je pense qu'il n'y a rien qui soit plus beau. Et une telle Église, elle rayonne de quelque chose de magnifique. La splendeur de notre Dieu, de sa beauté, son amour. C'est ce que je prie pour notre Église, je prie cela pour mon propre cœur, qu'on soit prompt à se repentir. Je vous invite à vous incliner dans la prière, puis de prendre peut-être juste quelques instants de silence pour examiner nos cœurs, pour préparer nos cœurs au règne de Christ, à sa domination, à son autorité sur nos vies. Ô Seigneur, visite-nous encore. Ton règne vient. Qu'il vienne, Seigneur, déjà sur nos cœurs. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à nous approcher de toi avec un cœur brisé. conscient, Seigneur, de notre besoin de toi, d'être pardonné, d'être purifié. Conscient que toi seul, tu peux effacer notre dette. Et tu peux nous faire paraître devant ta gloire, Seigneur, irrépréhensible et dans l'allégresse. Seigneur, aide-nous à nous repentir promptement chaque fois que nécessaire. Aide-nous à abandonner le péché. Aide-nous à nous en détourner durablement. Aide-nous, Seigneur, à revenir sans cesse à toi, jusqu'à ce que ton règne vienne définitivement, nous délivre de la présence et de la puissance du péché pour toujours, et que nos cœurs te soient entièrement acquis. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, dans notre Église, dans cette année, montrant une Église qui désire que Christ règne dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. Et que beaucoup, Seigneur, reconnaissent cela et viennent eux-mêmes à la repentance. Ô Seigneur, bénis notre ville de Toulouse, Seigneur, par une Église qui t'aime, par une Église qui se détourne de ses fautes et qui vient à toi. Seigneur, sauve une multitude encore dans notre ville et glorifie ton nom. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.